Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Pologne estime que le nouveau gouvernement indonésien sera très actif sur la scène mondiale. Sanana Gusmao est optimiste quand on fait que les relations bilatérales du Timor-Leste avec l'Indonésie s'amélioreront sous l'ère du président Prabowo. Une délégation russe qualifie Prabowo de grand président. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Pologne en Indonésie, Maciej Tumulek, estime que le nouveau gouvernement indonésien, dirigé par le président Prabowo Subianto, sera très actif sur la scène internationale. Tumulek à Jakarta dimanche est convaincu que le nouveau gouvernement indonésien sera très actif sur la scène internationale, ce qui contribuera à attirer les investissements indispensables. Tumulek estime que le développement de l'Indonésie à l'ère Prabowo continuera à se développer et que le rôle de l'Indonésie au niveau mondial sera réalisé conformément à ce qui est attendu. Il a également exprimé la volonté de la Pologne d'établir une coopération dans divers aspects avec le nouveau gouvernement indonésien. Tumulek a assisté dimanche à l'investiture du président élu et du vice-président de l'Indonésie au complexe du Parlement indonésien Senayan, Jakarta. Le premier ministre du Timor-Leste, Sanana Gusmao, a admis qu'il était ami avec Prabowo Subianto, de sorte que lors de son investiture en tant que 8e président de la République d'Indonésie, Sanana s'est senti obligé d'y assister en guise de soutien et d'appréciation pour le peuple indonésien. A Voice of Indonesia, rencontré après la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2024-2029 au bâtiment MPR Jakarta dimanche, Sanana a révélé que Prabowo avait envoyé l'invitation il y a longtemps qui a été remise directement alors qu'il assistait au forum de la réunion à Bali il y a quelque temps. Concernant les relations de l'Indonésie avec Timor-Leste, Sanana est optimiste que sous la direction de Prabowo Subianto, il n'y aura pas de problèmes susceptibles et perturber les relations entre les deux pays.
Kalau kita bicara tentang hubungan dengan Timor-Leste, saya percaya bahwa tidak akan ada.
Si nous parlons des relations avec Timor-Leste, je crois qu'il n'y aura aucun problème et nous y verrons une opportunité de s'améliorer. En outre, Sanana Gusmao a admis avoir été impressionné par le discours de Prabowo qui montrait un fort engagement en faveur du bien-être du peuple indonésien à l'avenir. Le sénateur de la Fédération de Russie de la République du Daghestan, Ilyas Umakhanov, a qualifié Prabowo Subianto de grand président en réponse à la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2024-2029 au bâtiment du Parlement Senayan, Jakarta, dimanche. Selon lui, le discours du président Prabowo a ouvert une perspective très large pour le peuple et l'avenir de la nation indonésienne, tant dans les domaines de la politique que de la protection sociale et de la gestion des ressources naturelles. Prabowo est aussi considéré comme ouvrant une nouvelle perspective pour l'indépendance du pays dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et du commerce. Umakhanov a déclaré que sous la direction de Prabowo, il espérait le succès et la prospérité du peuple indonésien. Concernant les relations diplomatiques entre les deux pays, Umakhanov a déclaré que les relations bilatérales entre les deux pays étaient très dynamiques et bien établies depuis des décennies, notamment les relations entre les deux dirigeants. La Russie a également de nombreux projets en Indonésie, y compris des entreprises dans le domaine des ressources naturelles et des productions conjointes entre les deux pays. Selon lui, la Russie fournit également des idées concernant le développement de l'énergie atomique en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le 10e président de la République fédérale d'Allemagne, Christian Wolff, a exprimé l'espoir de poursuivre la coopération fructueuse et les relations extraordinaires avec le nouveau gouvernement indonésien. Wolff, dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Allemagne à Jakarta, a souhaité dimanche poursuivre la coopération fructueuse et les bonnes relations entre les deux pays. Il a déclaré que l'Indonésie et l'Allemagne ont une longue histoire d'amitié et de collaboration fructueuse. Aujourd'hui, les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines tels que le développement, l'économie, le commerce et la technologie. Pour cette raison, il espère que les relations entre les deux pays se resserreront afin d'apporter davantage de bénéfices pour l'Indonésie et l'Allemagne. Concernant la cérémonie d'investiture, Wolff a admis qu'il était heureux d'être le représentant de l'Allemagne pour assister à l'investiture. Il a également remercié le président Prabowo Subianto pour son soutien aux relations solides entre l'Indonésie et l'Allemagne. L'aide humanitaire du gouvernement de la République d'Indonésie pour les victimes de catastrophes naturelles et de conflits est garantie d'arriver en toute sécurité en République du Soudan, apporté directement par le représentant de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Le chef du Centre de données d'information et de communication sur les catastrophes du BNPB, M. Abdul Muhari, a déclaré dimanche dans un communiqué de sceau à Jakarta que l'avion transportant l'aide humanitaire du gouvernement indonésien avait parfaitement atterri à l'aéroport international de Port Sudan. Le groupe transportant de l'aide dirigé par le député pour la réhabilitation et la reconstruction a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan, Ismat Mustafa Yusuf, le vice-ministre fédéral de la Santé du Soudan et son personnel vendredi 18 octobre après-midi, heure locale. L'aide humanitaire sous forme de médicaments, de matériel médical, de logistique et de plusieurs articles demandés par le gouvernement de la République du Soudan d'une valeur totale d'un million de dollars américains a été immédiatement remise pour être distribuée par les autorités locales aux résidents de besoin. En détail, il a été rapporté que l'aide totale pesant 53,6 tonnes pour le Soudan a été envoyé depuis la piste d'atterrissage de Halim Perdana Kusuma, Jakarta, lundi 14 octobre. L'Organisation mondiale de la santé a certifié l'Égypte comme pays exempt de paludisme. Dans une déclaration officielle dimanche, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que cette certification est une réalisation historique et une preuve de l'engagement du peuple et du gouvernement égyptien de se libérer de cette maladie ancienne. Il espère également que cette réalisation pourra inspirer d'autres pays de la région dans leurs efforts visant à éradiquer le paludisme avec les ressources et les outils appropriés. L'Égypte est le troisième pays à obtenir la certification d'absence de paludisme de l'OMS dans la région de la Méditerranée orientale, après les Émirats arabes unis et le Maroc. Au niveau mondial, 44 pays et 1 région ont atteint cette étape. La certification d'élimination du paludisme est fournie par l'OMS si un pays a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que la chaîne de la transmission de paludisme par le moustique Anopheles a été rompue au niveau national pendant au moins 3 années consécutives. En dehors de cela, un pays doit également démontrer sa capacité à prévenir la retransmission de la maladie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « L'Égypte obtient un certificat d'exemption de paludisme, une réussite importante dans un contexte géopolitique mondial chaud ». L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a décerné dimanche 20 octobre 2024 à l'Égypte un certificat d'éradication du paludisme et a déclaré que cette réalisation est historique et le point culminant de près d'un siècle d'efforts pour éradiquer la maladie. Dans un communiqué, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le paludisme existe en Égypte depuis l'ancienne civilisation égyptienne, mais que cette maladie qui a même infecté les pharaons fait désormais partie du passé de l'Égypte et non de son avenir. La certification de l'ESIP comme pays exempt et de paludissement devrait détourner l'attention du monde des conflits entre la Russie et l'Ukraine, voire entre Israël, la Palestine et le Liban. La guerre provoque des destructions physiques et tue de nombreuses personnes, mais certaines maladies peuvent faire plus de victimes que la guerre. En Égypte, le paludisme est observé depuis 4000 avant Jésus-Christ. Des preuves génétiques ayant été trouvées chez Toutankhamon et d'autres momies égyptiennes anciennes. Historiquement, les cas de paludisme ont été signalés autour de la population vivant le long des rives du Nil où les moustiques vecteurs de paludisme présentaient les meilleures conditions de reproduction et de survie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte a connu une augmentation sans précédent des cas de paludisme par les civils et le personnel militaire en raison de l'obstruction des services de santé, d'un approvisionnement insuffisant en médicaments antipaludiques et en larvicides et de l'invasion de Nofel arabiensis en moustiques vecteurs très efficaces. L'Égypte a réagi en créant 16 divisions de traitement et en recrutant plus de 4000 travailleurs médicaux pour la lutte antivectorielle. Actuellement, à l'échelle mondiale, quelques 84 et une région sont certifiées exemptes de paludisme. Cela signifie que seulement 20% de la planète est exempte de paludisme. Seulement 70% de l'Indonésie est certifiée exempte de paludisme. La certification pays sans paludisme est délivrée par l'OMS lorsqu'un pays a réussi à mettre fin à la chaîne de transmission du paludisme à l'échelle nationale pendant au moins 3 années consécutives. En outre, un pays doit démontrer sa capacité à prévenir une nouvelle transmission. Selon l'OMS, le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95% en Afrique. Outre la guerre armée en cours, la lutte contre les maladies infectieuses causées par des agents pathogènes tels que les bactéries, le virus et les parasites doit toujours être une préoccupation. Le nombre fantastique de décès dus à la COVID-19 est encore présent à nos esprits, de même que celui du paludisme. Selon les données de l'OMS, le paludisme est la troisième maladie la plus meurtrière au monde avec 2 à 3 millions de nouveaux cas chaque année. C'est Jurita, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec le 21 octobre 1985. Lorsque les îles Marshall sont devenues indépendantes des États-Unis. Les îles Marshall sont devenues autonomes en 1979, après avoir été auparavant sous contrôle américain dans le cadre du territoire sous tutelle des îles du Pacifique. Cette décision a marqué le début de l'indépendance des îles Marshall dans la gestion de leurs affaires antérieures. Puis le 21 octobre 1986, les îles Marshall ont signé le pacte des associations libres avec les États-Unis. Cet accord marque la reconnaissance de la pleine indépendance des îles Marshall ainsi que l'établissement d'une relation privilégiée entre les deux pays, où les îles Marshall deviennent un pays souverain mais entretiennent toujours des relations diplomatiques et économiques avec les États-Unis. Le 21 octobre 1990, commémoration de la Journée mondiale de prévention de la carence en iode. Le 21 octobre 1990 a été désigné comme la Journée mondiale de prévention de la carence en iode dans le but de sensibiliser davantage à l'importance de l'iode pour la santé du corps humain. Cette journée a été instituée lors du sommet mondial pour les enfants en 1990. L'Organisation mondiale de la santé a ensuite pris des nouvelles mesures en 1991 en établissant des indicateurs pour évaluer la carence en iode dans divers pays. Depuis lors, le 21 octobre est célébré comme la Journée mondiale de prévention de la carence en iode, où divers pays se joignent à cette campagne pour garantir que les besoins en iode de leur population soient satisfaits. Le 21 octobre 2010, le Myanmar a changé son drapeau national. Le 21 octobre 2010, le Myanmar a officiellement changé son drapeau national. Auparavant, le Myanmar utilisait le drapeau introduit le 3 janvier 1974, qui reflétait l'idéologie socialiste. Le drapeau comporte un brin de riz pour représenter les employés et les agriculteurs, et 14 étoiles représentant la division administrative du Myanmar. Le tout sur fond bleu. Entre-temps, le nouveau drapeau a été adopté avec un design différent, composé en 3 bandes horizontales jaunes, vertes et rouges, ainsi qu'une grande étoile blanche au milieu. Ce changement de drapeau n'est pas seulement un changement de symbole, mais aussi dans le cadre de la transition politique du Myanmar et l'effort visant à créer une nouvelle image aux yeux du monde international. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Cinta, cinta kita.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Ces auditeurs, pour la musique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Kadin, promeut l'énergie verte et une croissance de 8% en Indonésie ». Le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Kadin, Arshad Rashid, a souligné que l'Indonésie dispose d'une opportunité substantielle de croissance dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, EBT, la technologie de capture de carbone, les véhicules électriques et l'utilisation de la biodiversité. Citant un rapport d'Antara du jeudi 17 octobre 2024, Arshad a déclaré que le secteur des entreprises vertes en Indonésie englobe un large éventail de possibilités. Il a également souligné que de nombreuses ressources potentielles telles que l'énergie géothermique, l'énergie hydroélectrique et l'énergie solaire restent largement inexploitées. Arshad estime qu'il reste encore beaucoup à optimiser dans le potentiel énergétique vert de l'Indonésie. Il a donné des exemples d'opportunités de transition énergétique, soulignant que l'Indonésie dispose d'un potentiel considérable dans les technologies de capture de carbone et dans l'industrie émergente des véhicules électriques. Arshad a souligné que pour exploiter pleinement des opportunités, l'Indonésie doit établir ses propres normes de certification pour le secteur de l'énergie verte. Actuellement, la plupart des certifications en matière d'énergie verte en Indonésie sont obtenues à l'étranger. Arshad espère que l'Indonésie pourra commencer à développer son propre système de certification, ce qui lui permettra d'être plus autonome et de s'adapter aux besoins nationaux. Arshad a également souligné l'importance de créer un marché intérieur pour l'énergie verte. Il a mentionné que les ressources naturelles de l'Indonésie pour être utilisé de manière plus optimale s'il existait un marché bien défini. Par exemple, un marché de carbone en Indonésie doit être développé pour contribuer de manière plus significative à la réduction des émissions mondiales. Lors d'un dialogue avec les jeunes intitulé « Jeune 8, Troc 8% est possible » organisé par Kadin à Jakarta, jeudi, Arshad Rashid a présenté des propositions stratégiques prioritaires pour le développement économique de l'Indonésie au cours des 5 prochaines années. Ces propositions sont résumées dans un livre blanc ou rapport approfondi officiel divisé en 4 piliers stratégiques et 18 thèmes de croissance. Parmi les 18 thèmes de croissance, 7 domaines prioritaires devraient contribuer à hauteur de 400 à 450 milliards de dollars américains, soit 80% au PIB de l'Indonésie au cours des 5 prochaines années. Ces 7 domaines de croissance prioritaire comprennent des infrastructures intégrées, accessibles et abordables, le renforcement de la résilience des soins de santé et la transformation des services de santé, la réalisation de la résilience énergétique, l'accélération de la croissance des PME, le renforcement de la base manufacturière par la réindustrialisation, l'établissement du plus grand centre de développement des entreprises vertes au monde et la création d'un écosystème pour autosuffisant en matière de sécurité alimentaire. C'est le directeur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Chasing the light and shadows.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces Zritak Manggarai est une tribu qui vit à l'ouest de l'île de Flores dans les petites îles de la Sonde orientale de la dans la province de Nusa Tenggara Est qui s'étend sur trois préfectures, à savoir la préfecture Manggarai occidentale, la préfecture Manggarai et la préfecture Manggarai orientale. La majorité de ses habitants consacrent leur vie à la culture des champs. La majorité de la population consacre sa vie à l'agriculture dans les champs et les rizières. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses traditions et cultures de la communauté locale soient liées à l'agriculture. L'une d'entre elles se manifeste dans la danse Tepi Woja qui continue d'être préservée par le peuple Manggarai. Ces rites, Tepi Woja est composé du mot Tepi qui signifie séparer et du mot Woja qui signifie riz. La danse Tepi Woja signifie donc une danse qui sépare les grains de riz. Cette danse commémore les ancêtres du peuple Manggarai qui utilisaient le doku ou nyiru pour séparer les grains de riz. D'après le grand dictionnaire indonésien KBBI, le nyiru est un meuble ménager fabriqué à partir de bambou tressé, généralement de forme ronde pour vanner ou nettoyer le riz. Aujourd'hui, le doku ou nyiru n'est plus utilisé, remplacé par des équipements agricoles modernes. Les Manggarai utilisent déjà des machines à riz pour séparer le grain de riz. La danse Tepi Woja est généralement exécutée par des danseuses. Lorsqu'elles dansent, les danseuses portent un tissu tissé typique du Manggarai oriental, qui est une combinaison de tissu tissé songke et de kebaya. Le tissu tissé songke ou tissage ikat est un tissu typique du peuple du Manggarai oriental. Elles portent également un châle et portent un doku ou tampa comme outil de danse. La danse Tepi Woja est généralement dansée pour célébrer le jour de l'indépendance de la République d'Indonésie et lors du festival culturel et touristique sur l'île de Flores, Nusa Tenggara de l'Est. C'est Zurita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bima. Di Bima, en français à Bima. Je vais vous présenter un monologue dont le titre est Di Dalam Kamar. Di Dalam Kamar signifie dans la chambre. Ce monologue a été dit par Chris, un vlogueur australien, alors qu'il enregistrait les conditions de la chambre d'un hôtel autour de Port Sapé sur l'île de Sumbawa dans la province de Nusa Tenggara de l'Ouest. Chris a décrit l'état de la chambre dans laquelle il a passé la nuit dans un hôtel. Écoutons le monologue.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sapé. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Di dalam kamar. Je répète, di dalam kamar, en français, dans la chambre. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Di dalam. Di dalam signifie dans. Kamar. Kamar, en français, la chambre. Meja. Meja signifie la table. Lemari. Lemari signifie l'armoire. Televisi. Televisi signifie la télévision. AC. AC signifie le climatiseur. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Signifie dans la chambre, il y a une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Menempuh. Menempuh signifie passer. Perjalanan. Perjalanan signifie le voyage. Kabupaten Bima. Kabupaten Bima signifie le quartier de Bima. Menginap. Menginap, en français, passer la nuit. Pelabuhan Sapé. Pelabuhan Sapé, en français, le port Sapé. Kapal. Kapal signifie le navire. Dans le monologue, vous entendez la phrase Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Je répète. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Ce qui signifie dans la chambre, il y a une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Dans cette phrase, il y a l'expression di dalam, en français dans, qui a pour fonction de marquer un lieu à savoir une pièce qui a contenu. L'expression « di dalam » signifie « dans ». Dans cette phrase, ça désigne une chambre dans un hôtel qui contient une table, une armoire, une télévision et un climatiseur. Un autre exemple, écoutons des exemples d'utilisation de l'expression « di dalam ». « Di dalam » signifie « dans » dans une autre phrase. « Di dalam kapal ada restoran ». « Di dalam kapal ada restoran » signifie « dans le navire, il y a un restaurant ». Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus. Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus signifie Chris garde son appareil photo dans un sac spécial. En indonésien, il existe différents termes pour désigner les lieux de séjour. En plus de hôtel, je répète, hôtel, en français l'hôtel, il y a aussi wisma, en français une maison d'hôte, et losmen, signifie l'auberge, penginapan, en français l'hébergement, pondok, en français le cottage, et resort, en français le resort. La différence de termes porte sur les caractéristiques de l'établissement et sur sa forme. Wisma, en français une maison d'hôte. Losmen, en français l'auberge. Et penginapan, en français l'hébergement, offrent généralement des installations moins complètes que hôtel. Je répète, hôtel. En français, l'hôtel. Tandis que pondok, en français, le cottage, et resort, en français, le resort, ont une forme différente de l'hôtel. Pondok signifie le cottage, et resort signifie le resort, et généralement une auberge composée de plusieurs bâtiments en section. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois le monologue.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'indonésien d'aujourd'hui dont le sujet est... Di dalam kamar, en français dans la chambre. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Berseri bila hati tiada rasa kebahagiaan, carilah kawan penyebabnya di dalam dirimu. Saat-saat silih berganti lembaran hidup, suka duka datang pergi irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri. Mata hari bersemi.
kau datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz. Et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute! Bonsoir à tous! Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Kroncong intitulée « Untungnya hidup harus tetap berjalan » chantée par Afifa. Cette chanson sortie le 24 juin 2024 a été créée et popularisée par la chanteuse solo Bernadia. Cette chanson raconte du reflet d'un individu qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Le sens décrit le parcours émotionnel de quelqu'un qui fait face aux défis, aux incertitudes et aux difficultés, mais qui trouve finalement un sens et des leçons à partir de ses expériences. Cette chanson transmet également le message que chacun a la force de se relever de l'adversité et de continuer la vie avec un nouvel enthousiasme. Bon, chers auditeurs, voici Afifa dont le titre est « Untungnya hidup harus tetap berjalan » ou en français, heureusement, la vie doit continuer. Bonne écoute!
Untungnya bukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.